R22 Tout Monde, antenne La Fabrique Fantôme.
J'espère que vous avez eu le temps de faire un petit tour pour voir donc ce qui a projeté là-bas, ici, dans l'autre salle. Donc, quatre projections qui, à mon avis, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé, constituent quatre pistes de recherche, d'une recherche que j'ai amorcée il y a maintenant à peu près 4 mois, cet été donc. Tout d'abord en Tunisie, en juillet-août, et ensuite bon, en France, septembre-octobre. Donc c'est le début d'une expérimentation qui, à mon avis, commence à prendre corps. Et donc voilà, donc on a quatre horizons, j'ai envie de dire, qui s'ouvrent devant moi. Et maintenant, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais j'ai encore un peu de mal, évidemment, à cerner la chose, à trouver les mots justes pour en parler. Mais ce qui me semble important ce soir, c'est vraiment d'essayer de graviter autour de ça, quoi. Donc on va, en tout cas j'espère, surtout parler de ce que l'on a devant nous, mais aussi de la façon de travailler qui est en train de se chercher, sachant qu'évidemment l'horizon que tu as évoqué, c'est celui de l'exposition de septembre. Donc on sait évidemment tous les deux pas du tout ce que ça va donner, mais a priori, pour l'instant, c'est ces pistes-là qui s'amorcent. Donc là, ce qui est en jeu dans ce qu'on est en train de voir, ou ce que vous avez vu, c'est un dispositif, c'est une expérimentation, encore une fois, comme dans la totalité de mon travail, une expérimentation très très simple, mais qui est faite là, avec en compagnie avec le vent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif avec un cache de papier, extrêmement simple, donc différents caches de différentes formes et de différents poids, qui fonctionnent et qui palpitent et qui basculent avec la force du vent devant l'objectif de la caméra pour essayer de travailler une sorte de tremblement de l'image, d'apparition, de disparition, plein d'éléments qui sont, à mon avis, déjà récurrents dans mon travail et qui sont déjà là en filigrane. Sauf que là, ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme. Au départ, comment c'est venu ? Bah, très simplement, en expérimentant, comme d'habitude. Expérimentant avec le papier, en essayant de filmer des bouts de papier d'abord, en me baladant dans la ville avec des bouts de papier que je tenais dans la main, ce genre de choses, jusqu'à arriver à ce dispositif qui est en train encore de se chercher. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être qu'il y a une pile de photographies qui est là-bas. Ce serait bien que vous la passiez. Ces photographies, donc, ce sont des documents, des documents de différents moments de travail. Ça peut être intéressant d'avoir une sorte de double lecture comme ça. Donc ce travail est né tout d'abord en Tunisie, disons, où les premières expérimentations sont venues, beaucoup en rapport avec la lumière et avec les traversées de paysages en sondant le vent, entre guillemets, le vent et la lumière, comment ce clapet réagit. Et ça a donné forme à plusieurs choses, comme là-bas par exemple un triptyque vidéo où on voit donc le balayement, enfin un paysage balayé avec l'arrivée d'adolescents qui gravitent autour du dispositif et qui à la fois disparaissent, réapparaissent. Il y a évidemment le basculement du clapet qui produit des nuances colorées et il y a plein d'éléments qui sont arrivés. Évidemment, peut-être que vous l'aurez compris, mais le clapet il a été découpé de façon assez minutieuse de la forme exacte la taille de l'image, du capteur, entre guillemets. Et donc, il y a vraiment la question de l'écran, quoi. Cette chose qui vient à la fois obturer, donc obturateur, révéler, cacher, tout ça avec l'aide d'un intercesseur élémentaire. Élémentaire, je veux dire simple comme le papier, mais élémentaire aussi comme les éléments, quoi, le vent. À droite, c'est une autre expérimentation, en 16/9, là où différents écrans balayant un paysage donc, sont accolés les uns aux autres. Là, j'ai utilisé un cache beaucoup plus lourd. Par exemple, là, pour l'anecdote, c'est vraiment un moment précédant une tempête. Il y avait du vent, les caches étaient lourds. Ils basculent beaucoup plus difficilement. Donc là, c'est beaucoup plus subtil. C'est plutôt la palpitation du blanc et de l'écran qui m'intéresse. Mais évidemment, il y a des éléments qui passent derrière. Si vous vous rapprochez, vous les verrez plus tard. des éléments qui passent derrière et des indices de choses qui apparaissent et qui disparaissent, un peu comme par magie, quoi. Dans l'autre pièce, il y a deux projections, une sur un grand écran et une autre plus vers nous sur un écran, sur un mur sombre, où on voit. Alors la première, qui est une grande projection sur un grand écran, c'est une. On voit presque une projection blanche, donc presque une sorte de film à blanc, j'ai envie de dire, et on distingue sur les bords, sur les marges, des formes en mouvement. Ça, c'est une expérience. En fait, l'expérience a plutôt commencé comme ça. Donc, c'était vraiment le début.
D'ailleurs, je me rappelle, on a discuté, c'était une forme de vœu, ou en tout cas un désir. Je sais que quand on a montré, en fait, ici, donc, deux œuvres d'Ismaïl dans une exposition précédente qui s'appelle toujours Mandrake a disparu, mais qui a disparu, ou qui s'appelait. Et, c'était intéressant parce que l'une des questions qu'on se posait en accueillant Ismaïl ici en travail de résidence, il s'agissait évidemment pas de produire des nouvelles pièces d'Ismaïl Barry telles qu'elles existaient dans celles qu'on avait montrées, mais d'essayer de proposer un contexte différent pour qu'il puisse se passer une chose différente. Et l'un des endroits en fait où on était, il y avait un intérêt au départ a priori, c'est de se dire voilà comment essayer d'accueillir un cadre plus vaste, parce que le travail d'Ismaïl, c'est aussi un travail d'échelle qui jusqu'à présent s'appliquait à travailler sur des échelles relativement petites, donc fabriquer le monde à partir de quelques centimètres. Et c'est vrai qu'on a eu un dialogue sur des questions, je dirais plus de société, et parce que l'endroit aussi ici est marqué par une volonté d'essayer de questionner la société à partir des formes artistiques. Et c'est vrai que la question, c'était aussi comment essayer d'accueillir ce qui se passe, ce qui arrive dans le monde avec un dispositif qui, lui, peut rester très serré. Et je crois qu'effectivement, quand tu étais à Tunis, il y avait ces manifestations pour suite à l'assassinat d'un démocrate, et qui ont été une espèce de surgissement presque un peu... presque trop fort par rapport à ta capacité à pouvoir... Que faire de quelque chose qui va être vraiment effectivement la rue entière avec des gens qui portent des drapeaux tunisiens, quelque chose de visuellement très fort, mais aussi très signifiant, alors que jusqu'à présent, t'as toujours travaillé par ricochet, par ellipse, et jamais directement les sujets. Je crois qu'il y avait cette question-là.
Oui, c'est-à-dire que là, en fait, à ce moment-là, donc j'étais en train d'expérimenter mon cache, de fabriquer mes machins chez moi et tout. Il arrive cette chose. Donc, je me rappelle, t'étais avec moi. Et tu m'as dit, bon, pourquoi, de toute façon, on va y aller à la manif, t'as qu'à filmer. Donc, bon, on y allait, on a filmé. Et il est arrivé quelque chose de très, très amusant à mon sens et de très significatif. C'est que donc, j'étais avec mon appareil photo avec cette espèce de cache blanc devant. Et j'y allais donc pour filmer cette chose, mais sans la filmer. Étant donné que, comme vous l'avez peut-être vu, on voit que les abords donc, d'une image, mais finalement, ce qu'il y a. Le plus à voir, ce n'est qu'un blanc palpitant, quoi. C'est-à-dire une sorte de projection à blanc, d'un film à blanc. Et donc, à ce moment-là, ça m'avait intrigué, cette idée de filmer un événement ou d'être au milieu d'un événement qui me concernait, mais tout en utilisant un dispositif qu'il déjouait quelque part, c'est-à-dire qu'il évidait, c'est-à-dire en utilisant vraiment un dispositif qui servait à filmer à blanc, c'est-à-dire qui servait à filmer sans filmer. Et donc, là, je t'avais envoyé plusieurs... message à ce moment-là, parce que c'était très excitant et tout. Et je te disais, c'est dingue, c'est-à-dire tout le monde était autour de moi, me disait, allez, il faut filmer, il faut capter tous les événements.
Il ne faut pas rater l'événement.
Et moi, bon, je ne disais rien, mais alors que j'étais exactement en train de tout rater, en fait. Donc, plus que le résultat en lui-même, c'était cette expérience-là qui m'amusait, en fait. C'est-à-dire vraiment être dans la peau presque d'un journaliste, parce que j'étais pris pour un journaliste de France 24. Mais... et d'ailleurs, Youssef qui est là, il m'a aidé aussi. Lui, il se mettait au milieu de la foule, comme Allison, à un moment donné. Il dégageait les gens pour qu'ils puissent passer devant moi. Et donc, c'était une façon de capter la foule qui coule, littéralement, sans vraiment, tout en ratant ce qui arrive, quoi. Donc, on a la captation d'un événement extrêmement fort, trop fort pour moi en tout cas, mais par ses marges, et en tentant en même temps, tout en étant au plus près, essayer en même temps d'accueillir une fuite et une échappée, quoi. Donc ça, c'était la première expérience, ce qui a donné lieu donc à la projection. Une des captations parmi, des dizaines. Et ensuite, il y a eu une autre déclinaison de cette expérience où il y a eu l'intervention davantage du vent, où le clapet est devenu mobile. Parce que pendant les manifestations, justement, ce qui m'intéressait, c'était que le vent faisait bouger le clapet, mais la foule absorbait le vent. Donc d'un coup, le clapet devenait immobile. Et je me dis, c'est dingue, la foule absorbe le vent, c'est incroyable. Bah, c'est évident en même temps, mais c'était dingue. Et ça bougeait énormément, je ne sais pas si tu te rappelles. Et d'un coup, dès que les gens arrivaient, c'est devenu immobile, c'est devenu plus qu'un écran blanc. Donc après, on est parti, on a exploré des paysages. Et là, c'était le vent qui venait basculer le clapet. Mais du coup, il y a eu plein d'autres questions qui ont émergé. La question de l'obturateur, de l'écran blanc, du film à blanc encore une fois, mais qui en même temps révèle et fait disparaître. Sachant que par exemple, si on observe bien cette vidéo qui est là-bas, à un moment donné, il y a un personnage qui est là, assis, le clapet se pose, et quand il se relève, le personnage n'est plus là. C'est dingue. Moi, c'est des petits événements qui... déjà, ça ouvre une brèche, c'est-à-dire... Tiens, il y a quelque chose un peu à la Méliès. Ce truc-là de presque rien, avec ce vent qui balaye le paysage, et on peut déjà créer une sorte de rapport de disparition-apparition, un corps apparaît, un corps disparaît. Ce qui est un peu en jeu là-bas, mais de façon beaucoup plus fine, vous voyez parfois des choses passer, disparaître, un clapet se lève, montre quelque chose qui arrive, il redescend. Quand il se relève, la chose n'est plus là. Voilà une piste, encore une fois. Donc, encore une fois, j'ai vraiment envie de dire que c'est plusieurs virgules de quelque chose qui est en train de se construire.
Mais ce qui est drôle, c'est que tu pars quand même de ces manifestations en Tunisie, qui sont aussi au-delà manifestations qui sont très liées à un moment précis, c'est un assassinat, mais qui sont aussi évidemment l'écho de la révolution tunisienne, qui est encore très présente. D'ailleurs, l'image est vraiment parfois complètement rouge des drapeaux, donc elle devient presque un élément chromatique. C'est drôle que tu te sautes toute l'étape suivante, c'est retour à Ismaïl Barry, il n'y a plus personne là. Il y a eu un petit coup de manifestation, une espèce de montée de chaleur comme ça. Et puis bon, finalement, l'étape suivante, c'est retour au corps un peu singulier, même s'il n'y a pas un retour. Et je me dis à la fois, évidemment, il y a des choses qui sont très, très... forte et juste qui se passe là, mais à la fois l'interrogation, c'est de se dire, bon là, on a aussi essayé de commencer à mettre en espace les vidéos pour les regarder, parce que le principe de ce qui vous est proposé ce soir, c'est pas tant de faire une exposition que de les regarder, les vidéos, c'est-à-dire une fois qu'on les met à une taille donnée, on leur donne une proportion, et quelque chose qui commence à pouvoir exister. Et c'est vrai qu'en mettant celle de la manifestation sur un grand écran, elle donne quelque chose, vous irez la voir tout à l'heure, ça donne quelque chose qui recommence à être, je trouve, assez, assez fort, parce qu'il y a quand même cette idée-là que tout s'agite dans la marge.
Oui.
Et que peut-être que la manifestation aussi, elle devient intéressante dès lors qu'elle se retrouve dans la marge. Quoi.
Ah ouais.
Et que l'événement qu'il ne faut pas manquer, justement, finalement, finit par éblouir, quoi, nous faire perdre ce qui se passe dans ces bords-là. Je trouve que la vidéo, il y a quelque chose qui fonctionne quand même, peut-être en revenant à tes dispositifs, à ceux-ci qui se vident plus pour revenir à cette chose qui est... Moi, elle m'a paru plus pleine quand je l'avais vue cet été, que maintenant je la vois avec celle-ci, elle me paraît de nouveau assez, assez bien creusée, assez...
Franchement, je ne sais pas. Il va falloir que je teste beaucoup et que je dépeuple, que je repeuple, que je teste et que je... pour voir, quoi. Mais c'est vrai que moi, il me semble, là, pour l'instant, je suis dans une logique d'ouverture, c'est-à-dire que j'essaie de déployer le maximum d'expériences à partir d'une expérience originelle qui est d'une simplicité folle. Mais comment cette chose très simple peut donner lieu à plusieurs choses intéressantes, en tout cas qui m'attirent. Mais c'est vrai que je me pose la question maintenant, en grand particulier, particulièrement, de ce qu'il y a à filmer. Là, par exemple, ce qui est filmé, c'est surtout ce qui est caché, finalement. Ce qui est en marge, derrière. Mais cette chose-là est extrêmement importante. Il va falloir que ce soit très bien travaillé, cette chose-là, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se jouer derrière cette palpitation, par exemple. Mais c'est vrai que, par exemple, la question de la manifestation, pourquoi ? Mais c'est parce que c'est la chose qui est venue vers moi, en fait. Je ne serais pas allé naturellement vers ce sujet. C'est le sujet qui est venu vers moi parce que, tout simplement, c'était une sorte de bouleversement total dans la société dans laquelle je vivais. Et j'y allais de toute façon. Donc, le dispositif, enfin, mon réflexe premier, c'est de filmer coûte que coûte et d'attendre de voir ce qui arrive. Donc là, c'était ce qui arrivait, c'était la chose qui, l'événement qui arrivait à ce moment-là. Donc je l'ai juste capté. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là, mais je t'avoue que je ne sais pas trop. Je doute. Je ne sais pas encore.
Mais ce qui me semble, en tout cas, on en a parlé tout à l'heure, intéressant, c'est qu'à la fois dans ton travail, il y a eu, il y a encore une volonté de pas le ramener au contexte tunisien. Peut-être pour ne pas être l'artiste tunisien du moment, je ne sais pas. Et cependant, en fait, la Tunisie est quand même la matrice de beaucoup de choses dans ton travail. Et pas tant, on en a parlé aussi, pas tant la Tunisie peut-être d'un biographique qu'une espèce d'espace sensible un peu fabulé qui serait pas tant effectivement l'idée d'être né en Tunisie, mais l'idée d'avoir un espèce de paysage personnel dans le corps, qui fait que finalement, mine de rien, il y a plusieurs pièces importantes que tu as réalisées qui quand même, partent de là, mais comme tu disais, en mettant à distance.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, filmer en Tunisie, pour moi, était très important. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'explique pas, mais à chaque fois, là-bas, des choses émergent. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des dispositifs qui se créent pour à la fois être au plus près de ces paysages, de ces ambiances, de ces lumières, mais tout en créant une véritable distance, quoi. Là, en l'occurrence, ça paraît assez évident. Hein, c'est-à-dire, c'est la première fois que je filme des paysages, mais vraiment de façon frontale, mais je me débrouille quand même pour que ça pulse, quoi, et pour que ça, qu'il y ait une palpitation, quoi, et donc qu'il y ait une distanciation quand même. Mais c'est vrai, ce que tu m'as dit ce matin, par exemple, par rapport à cette histoire de fabulation, fabuler ces paysages, fabuler ces vents, mais spécifiquement de là-bas et tout, il y a quelque chose que je dois creuser, enfin en tout cas que j'ai beaucoup de mal à mettre de mots dessus, parce que, mais ce que tu me dis là par exemple par rapport au fait de se dégager du pur biographique, parce que je crois que ça n'a rien à voir avec mon travail, c'est une amorce, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le biographique ou avec l'enfance ou j'en sais rien, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est quelque chose lié plutôt aux éléments, à une ambiance, à des corps, à certaines formes de corps, à ce genre de choses, quoi. Et bon, comment en discuter ? Et il y a un texte, un entretien qui a été fait. Donc il y a 3 semaines, on est parti, on a mis en route un tournage avec 3 caméras pour essayer.
Super production.
Une super production made in Fantôme. Et donc 3 caméras.
Des assistants à l'appel.
Ouais. Donc Alison est venu, on a 3 caméras, on n'a pas dormi, on a bossé comme des malades. 4 jours non-stop, et il fallait assurer à fond, parce qu'il faut assurer, quoi.
Pourquoi tu me montres comme ça ?
Parce qu'il lui met la pression, il dit, voilà, je te mets de l'argent, il faut ramener des images. Enfin bon. Et là, c'était incroyable, parce que vraiment... Ça a mis le doigt sur une chose, c'est que j'étais absolument incapable de travailler comme ça. C'est-à-dire la fabrication d'un voilà, c'est-à-dire ça m'a pris du temps et des préparations folles. Hein. Je me suis bien préparé, j'ai tout préparé. Je me dis je vais faire ça. J'ai fait des schémas, tout ce qu'il fallait pas faire. Et justement, ça rejoint vraiment ma façon de travailler, c'est-à-dire que pour faire quelque chose, il faut que je fasse des détours pas possibles pour revenir à une simplicité en général. Et là, ce dispositif, bon, qui n'est pas non plus, c'est pas Hollywood, hein, mais sans vouloir te vexer. Et vraiment, a été un peu trop lourd pour moi et trop rigide. C'est-à-dire que c'est pas possible de ramener des images en 4 jours, c'est pas possible de. Pourtant.
Avec Clément, on a vraiment tout fait hein, pour. Enfin, vraiment, on a mis du nôtre, quoi. On était vraiment, on était à fond. Pendant une demi-journée, on a appris à fabriquer le dispositif, donc avec le fil de fer autour des 5D qui coûte. Bon, voilà, on était un peu paniqués, les entourer de fil de fer, de serrer avec des pinces, de rajouter des scotch. Enfin, bref, c'était tout un. Voilà, toute une initiation un peu sur la construction du dispositif. Donc, on était vraiment, on le maîtrisait, on savait, voilà, comment accrocher les caches. Enfin, c'était très précis, quoi. On avait vu les schémas, on savait comment on devait réagir, se placer, se disposer, etc. Mais.
Savoir, en tout cas, ça a été enseigné. C'est vrai, je vous expliquais, par exemple, souvent, c'est le cache 4. Donc, 4 couches de cache, ça correspond à peu près à souvent. Bon. Mais évidemment, ça marchait jamais parce que le vent, ça tourne, et puis on était trois, donc à chaque fois, il y en avait un qui avait un problème. Et puis, ben, c'était amusant, c'était vraiment... Et donc, au départ, j'étais un peu dépité, et puis j'avais du mal un peu à cacher ce dépit, vas-y, parle. Donc, c'était une expérience très intéressante, parce que du coup, ça donnait lieu à un texte, ça a donné lieu à plein de captations d'images, à plein de rencontres avec des personnes. Et après, en discutant notamment avec Olivier, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'infusion, quoi. Il faut vraiment que le travail se fasse de façon infusée, et puis que les choses filmées souvent, laisser respirer, arriver que les choses arrivent, attendre que les choses arrivent, mais surtout ne pas être trop dans la fabrication artificielle, quoi. D'où la question, en tout cas l'interrogation très intéressante qu'on a eue sur la forme, sur la modalité du tournage propre au cinéma et qui m'avait attiré à un moment donné, parce que là, évidemment, il y a le rapport au cinéma qui m'intéresse, une forme de rapport originel au cinéma, ces images un peu magiques du début qui me fascinent un peu et tout. Donc je me dis, tiens, pourquoi ne pas mettre un pied plus grand dans le monde du cinéma et emprunter un peu ces langages et ses façons de faire un peu.
Dire que moi je t'ai poussé à faire ça.
Si, tu m'as obligé, donc... Non, on a parlé et on s'était dit, tiens, pourquoi pas tenter.
Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je questionne très clairement, le rapport entre le cinéma et le tournage. Je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'on essaye de faire et d'accompagner dans le travail des artistes qu'on suit, c'est-à-dire effectivement une possibilité de travailler une production de matériaux continu et que peut-être que des moments, ici, on fait un espèce de montage et avec d'autres gens qu'on suit, on fait du montage type cinéma, mais que le montage soit quelque chose qui devienne un moment plus central de l'écriture que le tournage. Moi, je te dis ce que j'en pensais, hein. Je pense que le cinéma a besoin de fabriquer de manière d'infuser de manière très artificielle du réel parce que c'est quelque chose qui est complètement factice, quoi. Et cette facticité fait que finalement, on charge dans un contexte donné avec des dates, un début, une fin, une intensité qu'on pourrait trouver complètement dans la vie, mais qu'on élimine de la vie pour pouvoir la faire comme ça. Et c'est vrai que c'est à peu près, moi, l'inverse de ce qui m'intéresse. Je pense que le cinéma documentaire déroge de ça parce qu'il s'étale dans le temps, mais aussi parce que il s'intéresse à ce qu'il peut y avoir déjà là. Mais c'est vrai qu'après, le tournage formalisé où on a tant de temps pour faire quelque chose, moi, je dis qu'on force les choses, quoi. Et on force notamment le réel. On force les choses à se passer. Et donc, elles se passent comme au cinéma, c'est-à-dire pas du tout comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est comme dans quelque chose d'autre. Et c'est vrai que dans ton travail, j'avais le sentiment qu'avec une temporalité obligatoire, et que les éléments te punissent finalement si tu les forces, quoi. Ouais, il a plu, d'accord, mais bon.
Bah, tempête, hein.
Il faut quand même savoir qu'on est descendu à Montpellier pour faire ce tournage de 3 jours. À la recherche d'une certaine lumière, c'est-à-dire que on parlait de fabulation tout à l'heure, d'images qui hantent et tout ça, et donc on est quand même descendu dans le sud de la France pour avoir une lumière qui se rapprocherait peut-être de ce qu'on avait pu vivre cet été, et en fait pas du tout.
Ouais, non, mais c'est comme tu essaies de refabriquer quelque chose que tu as vécu d'incroyable, quelque chose qui était à un moment donné très juste, et tu essaies de le refabriquer, et c'était évidemment. Donc on était parti à la recherche de cette lumière, de certains paysages qu'on avait fabulés. c'était marrant, quoi. Je sais pas comment tu l'as vécu, parce que toi tu as vécu donc la Tunisie, tu as vécu également ce tournage. Je sais pas.
Par rapport à cette question de chercher quelque chose qui a eu lieu, qu'on maîtrisait pas et qu'on a essayé de recréer, c'est ce qu'on voit en fait sur la projection qui est derrière. cette apparition comme ça de personnages dans le champ qui apparaissent, qui disparaissent, etc. De ces figures adolescentes comme ça qui viennent rôder autour du dispositif. Donc il faut imaginer l'appareil avec le dispositif devant, le pied, nous qui sommes autour en train d'essayer de voir comment ça se passe, etc. Les adolescents qui arrivent, une rôde qui se met en place comme ça autour. Et en fait, on n'a pas pu le recréer, quoi. On a été hanté en fait pendant tout le tournage par ce moment-là, cet état de grâce un peu. Et voilà. Et pourtant, on a essayé parce que les gens quand même venaient nous voir, mais ils n'osaient pas vraiment venir, donc on allait plus ou moins les chercher.
Oui, parce que comme je disais tout à l'heure aux étudiants là, c'est qu'en Tunisie, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand tu filmes, les gens rentrent dans le champ. Alors que ici, par exemple, en France, les gens viennent te voir directement, mais ils évitent, comme si tu lançais un fil invisible dans le paysage, ils évitent de se briser ce fil par délicatesse, par politesse, en fait. Donc ils viennent derrière, ils regardent. Et là, ce qui était fascinant dans la manifestation, là, c'est que le monde continue à tourner, et puis le dispositif même, à la limite, devient un capteur, quoi, comme un aimant. Qui amène à lui les gens autour, le monde, quoi, et qui en même temps, autour de cette gravitation-là, rend visible le dispositif, quoi. C'est pour ça que la question de l'ellipse, par exemple, dans ce travail-là, m'avait vraiment beaucoup intéressé. C'est-à-dire que l'ellipse à l'image, cette chose qui apparaît, disparaît, qui saute et tout, mais aussi la gravitation, l'ellipse, c'est-à-dire vraiment la rôde du corps autour du dispositif. Différent. Parce que là, dans cette vidéo, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a plusieurs ellipses qui s'inscrivent les unes dans les autres. Et on voit vraiment ces corps-là, adolescents, comme tu le dis, rôder autour de cette chose-là, apparaître, disparaître. Et voilà. Peut-être que ce serait bien de...
Oui, voilà. Ouais.
Alors, je sais pas, peut-être que ce serait bien d'ouvrir la discussion à tout le monde, pour que ce soit plus... Enfin, si vous avez envie de dire des choses. Voilà. Mohamed, tu veux dire quelque chose ?
Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que... de ce qu'on voit pas, et tu parles très peu du blanc, et ça c'est un truc qui moi m'interpelle, tu vois, direct. C'est que je me dis qu'en fait c'est un travail sur le blanc plus qu'un travail uniquement sur le paysage, et donc si tu pouvais développer là-dessus.
Non, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un travail. Non, tu as tout à fait raison, hein. C'est un travail sur les nuances, sur le blanc, sur la réverbération de la lumière, ce genre de choses, mais surtout sur ce qui se passe autour, dans les marges. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que pour cette chose soit vraiment travaillée, il faut aussi travailler comme dans l'envers ce qui est caché, ce qui peut paraître comme étant un sujet aussi. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais je sais pas, en fait, tu vois le truc de. Enfin, moi direct, c'est bête, mais tu vois, je pense direct à Guy Debord, tu vois, sur l'écran blanc. Et en fait, tu t'en parles pas, enfin, t'en parles très peu, tu vois. Tout d'un coup, tu présentes une manifestation et c'est plein de signes, tu vois. C'est un truc qui représente énormément de signes qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Et tout d'un coup, tu décides de mettre un écran blanc. Enfin, il a fait un film où c'était juste un écran blanc pendant une vingtaine de minutes, tu vois. Donc la question du blanc, elle est super importante.
Oui, c'est vrai.
Donc, tu fais un jeu, c'est moyen que tu parles de ça.
Ouais.
Enfin, qu'est-ce que tu...
T'as quand même nommé...
Par rapport à ça, qu'est-ce que tu...
T'as quand même nommé la série filmée à blanc.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport au blanc, déjà, il y a la question du... À l'origine, la question du dispositif cinématographique, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, par exemple, là, c'est qu'on a vraiment l'illusion d'un film sans film, donc d'un film à blanc. Alors qu'en même temps, il y a les indices suffisants pour comprendre qu'il y a une forme évidée et un événement évidé. Donc, et cette chose-là, elle se fait par le blanc, mais aussi... par la suture là floue qui est autour et par les vibrations. Parfois les gens rentrent dans le cache, ils le font trembler, d'un coup le dispositif devient visible. Donc il y a la question de la projection, c'est-à-dire cet écran, cette tension là entre un film est projeté et en même temps ce film projeté renvoie à un film sans film et à un événement sans événement. Tu vois ? Et donc... Il y a cette question-là, tu vois. Oui, voilà.
Non, mais j'ai l'impression que ça parle beaucoup de... Parce qu'Olivier, en fait, il y a un truc... Olivier, parle beaucoup de, tu sais, de la dimension sociale ancrée dans le réel. Et, toi, par
et moi, je l'évite.
Et en fait, c'est une sorte de... C'est-à-dire une collaboration presque, tu vois. Pièce, quoi, tu vois. Enfin, je la vois un peu comme ça. Enfin, si vous pouvez en parler, je ne sais pas comment vous avez travaillé là-dessus. Quoi. Enfin, ce n'est pas une collaboration, je sais, mais...
Non, mais je pense qu'après, il y a, je pense que c'est pas une collaboration, ça c'est clair. Cependant, c'est la question du contexte. Je pense que je vais donner un exemple très simple ici. Ce soir, on montre en fait 4 vidéos dans le dispositif de l'exposition qui est présentée ici du mercredi au samedi. C'est-à-dire qu'ici, tout se passe au même endroit, et donc il y a un effet de contexte qui, avec le temps, avec le fait que les artistes sont pas simplement des gens qui passent ici, mais dont on essaye aussi d'avoir une forme de compagnonnage et au fond de porter le lieu ensemble, avec aussi les gens qui viennent, avec le public, fait que progressivement, je pense que la question du lieu comme pas espace pas neutre, mais espace complètement hanté par tout ce qu'il y a avant, pendant, mais je pense joue aussi dans la manière dont on accueille les gens. Je pense que Ismaël aussi fait partie de ces gens-là qui a connaissance de ce qu'il y a avant lui, après lui ici, pendant qu'il est là. Et ça, je crois que ça joue un rôle, le contexte rentre dans le travail comme ça.
Oui, mais je crois que tu n'as pas répondu à sa question.
Mais c'est pas
si. Oui, un peu, oui.
Si, un peu, quand même.
Enfin, je
ne
sais pas, ce n'est pas une critique significative.
Non, mais c'est l'effet, l'effet de contexte, en tout cas, moi, je crois que joue là. L'effet de contexte, au sens que si tu, toi, si tu le sais, si tu montres un travail dans un lieu où tu as déjà vu d'autres travaux, il y a quelque chose d'autre que de venir quelque part, venir faire une exposition lambda. Là, il y a quelque chose qui est aussi une volonté d'habiter les lieux. Et je pense qu'au-delà d'une collaboration, c'est aussi un travail qui se développe dans un lieu qui n'est pas neutre, qu'on n'a pas voulu neutre, et qui, plus le temps passe, moins il est neutre. Donc je pense qu'il pose quelque chose aussi comme... j'imagine.
Mais par rapport à... Pour revenir au sujet, là, en l'occurrence, la manifestation, c'est marrant, parce que quand tu es venu voir ça au départ, tu m'as dit « Non, mais arrête ça, la manif... » donc bon, et ça m'avait frappé, je disais, ah oui, tiens, bon, pourquoi pas. Et mais c'est vrai que là, bon, je me suis frotté là à un sujet que j'aurais jamais filmé. C'est-à-dire, on me dit, descend avec la caméra, filmer le manif, jamais, je veux dire. Je ne sais pas comment filmer ça. Je ne sais pas filmer ça. Déjà, il y a trop de couleurs, ça bouge, et puis même le sujet est beaucoup trop fort, ça m'écrase. Je suis quelqu'un d'un peu frileux par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai besoin de mesurer mes billes pour pouvoir vraiment assumer une image. Et du coup, c'est vraiment la rencontre d'une recherche et d'un événement, une explosion autour de moi, et c'est la rencontre de ça, en fait. Une recherche vraiment dans ma petite cuisine, entre guillemets, hein, et en même temps, tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la rencontre de ça, et c'est ça en fait qui m'intéresse là-dedans, c'est-à-dire comment cette captation-là traduit cette chose-là. C'est-à-dire, et du coup, le hasard m'a intéressé parce que il se trouvait que je travaillais sur une façon de ne pas filmer, alors que je descendais pour filmer quelque chose qu'il fallait, en tout cas a priori ou apparemment, absolument filmer. Et moi, en tant que citoyen engagé à ma mesure, je suis d'accord avec ça, hein, mais sauf que. Et il y avait vraiment cette tension-là qui me semble être intéressante. Et donc, en écrivant, l'idée, ou cette expression-là de filmer à blanc, est apparue comme une évidence. Une façon de filmer à vide, quoi. Mais tout en étant au plus près, ou tout en retrouvant peut-être la meilleure façon pour moi de filmer ça. Donc ça devient un peu complexe. En plus, non, il y a la question du recouvrement permanent. C'est-à-dire, ce blanc recouvre, mais des corps qui ne cessent de se recouvrir, des corps qui ne cessent de fluer, quoi. C'est-à-dire de s'écouler, un véritable écoulement. Donc il n'y a rien à tenir, il n'y a rien à capter. Et ça, c'était fou. Ouais.
Il y a le mouvement à capter. En fait, moi, je n'ai pas vu encore le film, ouais. Celui qui est là-bas. Mais dans les deux cas, que ce soit le vent ou la manif, même si on ne voit pas le vent, on ne le voit pas. Mais y a, à chaque fois, tu captes le mouvement et cette espèce de panneau blanc qui empêche la vue, mais par contre, qui lui révèle complètement ce que peut-être justement tu sens dans ton corps, dans ces paysages-là. La chaleur, le mouvement, tous ces éléments-là.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Non, c'est vrai qu'en plus, l'écran devient une sorte de... Ce que tu dis là est très intéressant, c'est-à-dire une sorte de capteur sensible, ne serait-ce que de la lumière. C'est-à-dire dans quel contexte lumineux et atmosphérique se déroule cette chose. Et le rythme, enfin ce genre de choses, quoi. Et dans mon travail, donc à chaque fois, j'utilise des petits passeurs comme ça, très élémentaires. Et là, le papier a été un passeur assez fabuleux parce que ça devient un réel écran. C'est-à-dire, ça capte des choses dans l'infra et ça cache quelque chose qui est dans le méga, j'ai l'impression de dire, dans le trop pour moi, quoi. Et il fallait ajuster ça très subtilement et c'est délicat. C'est délicat. Comment ?
Ça me fait penser à une épiderme ou un peau morte qui ne veut pas partir.
Qui ne veut pas partir ?
Bah, en tout cas, qui est sur le chemin de... Un truc un peu... Je ne sais pas, en tout cas, il y a une notion de peau, quoi.
Ah, oui.
Par rapport à l'écran, par rapport à... je ne sais pas.
Ouais, c'est peut-être. Ça touche... Ouais. La pellicule, oui.
Et donc, toi, tu disais, quand il a filmé une manif, il ne faut pas filmer... Moi, je ne l'ai pas encouragé à filmer des manifs, hein, faut être quand même dingue. Mais je pense que l'un des objectifs de travail d'Ismaël, c'était d'aller dehors à une autre échelle. Alors, du coup...
Il n'y a pas un projecteur, là.
Non, mais c'était important, parce que du coup, la discussion qu'on a eue, c'est de se dire, est-ce que ce qu'il faisait auparavant, quand on s'est rencontrés... Qu'est-ce que ça donne si... je crois qu'en plus, c'est de la volonté d'Ismaël, hein, de trouver un contexte un peu plus ample, quoi, un espace plus ample. Est-ce que ça marche quand c'est plus grand? Parce que c'est vrai que le travail, et qui est très fort dans les pièces précédentes, c'est que c'est des choses qui se passent à l'échelle de quelques centimètres. Donc, il y a une espèce d'intensité, alors que c'est vraiment très, très tenu, comme ça. Il y avait quand même l'idée de se dire, oui, mais est-ce qu'il y a moyen d'aller dans un espace plus... Est-ce que ça marche encore Et c'est vrai que moi, ce que je trouve assez drôle comme image, j'ai pensé à ça pendant l'été quand il m'envoyait les vidéos, je regardais ça et j'imaginais en fait un petit peu comme Magritte là dans sa cuisine. Vous savez, je sais pas si vous savez, il a peint la plupart de ses tableaux en parlant avec sa femme qui faisait la cuisine, tout ça, avec son... Et je me dis, il y a la manif dehors et le gars il prend son châssis blanc et vient le poser comme ça. Il y a une espèce de type qui est dans sa cuisine en train de faire sa peinture et puis il y a le monde dehors et il vient et en fait avant que ça commence à peindre, il pose son châssis blanc et donc on voit plus la manif. On voit que le châssis du peintre. Donc il y avait une espèce de chose qui m'a traversé comme ça un peu de Magritte pour une raison que j'ignore mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de drôle aussi là-dedans dans l'idée de préparer comme si quelque part il y a une préparation de quelque chose qui advient, mais derrière, le monde, lui, continue à devenir. Et par contre, l'artiste n'est pas prêt, je ne sais pas comment dire ça. Tu vois, en fait, il est en train de s'installer, et puis il y a tout qui se passe. Et le gars, il est encore en train de... Et la notion de donc, il ne faut pas rater l'événement me semblait vraiment intéressante, parce qu'au contraire, effectivement, il y a une volonté dans les médias de se jeter dessus, de l'avoir l'événement, donc on le voit finalement. Mais là, on va le voir parce que quelque part, c'est pas la bonne. Il y a un truc qui se passe pas à la bonne vitesse, et de ce fait, ça nous fait voir en fait. Ouais. Ça nous fait voir parce qu'il y a une chose qui est pas synchrone justement parce qu'il ne cherche pas à épouser la vitesse de l'événement. Voilà. Ouais. Et c'est la notion de référent un peu. Le référent, lui, il va pas à la même vitesse et d'un coup, on voit le mouvement. Si tu vas à la même vitesse que l'événement, il se dilue dans son propre mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça. Déceptif, mais il a beaucoup qui fait apparaître.
Une sorte de regard aveugle aussi, enfin, je trouve, un regard aveugle dans l'expression. Déjà, ma question, ça serait, tu parles de film à blanc, mais moi, ça m'évoque saigne à blanc, et je trouve que c'est très violent, surtout pour des manifestations là. Et ça joint à ma remarque qui, en fait, le regard aveugle, c'est on voit, mais on regarde pas. On voit les choses, c'est-à-dire que voir, c'est percevoir les choses, mais en même temps, on les regarde pas. Comme on est coincé, en fait, par cet écran blanc. Et je pense à un texte de Lacan qui parle de la schisse de l'œil et du regard. La schisse, c'est fendre, en fait. C'est la scission entre l'œil et le regard. D'un côté, il y a le voir, c'est-à-dire qu'on voit phénoménologiquement les choses, les événements, les gens qui passent autour et tout. Mais en fait, il nous parle de regard aussi. C'est-à-dire, le regard, c'est l'autre, c'est la Tunisie. Enfin, je ne sais pas, c'est ta vision des choses. Et cet écran blanc, il partitionne ces deux choses-là.
Très intéressant. Ouais.
Dans l'érotisme, qui est caché, en fait, tu te donnes vraiment envie de voir ce qui est caché. Et ça donne vraiment un grand intérêt à ce qu'on ne voit pas. Et en plus, tu as cette danse, tu as cette palpitation qui donne beaucoup de.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai.
Une sensibilité à l'image. Ouais.
Non, c'est vrai qu'en fait, je pense que la question qui me revenait tout le temps quand je faisais ça, c'était mais où est le film ? Où est-ce qu'il se déroule ? Dans le blanc, dans les marges, hors champ, ou un peu partout, j'imagine.
En fait, tu te déplaces tout le temps, en tant que spectateur, tu te déplaces tout le temps, tu es capté par le beau, justement, parce que tu as envie de savoir ce qui se passe derrière. Tu te déplaces, en fait, sans cesse. Non,
peut-être.
Ouais.
Mais à regarder le blanc, mais aussi à regarder les pourtours. Ouais, ouais. Tu te déplaces, ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est très juste, je crois.
Justement, moi je me demandais, en fait, est-ce qu'à un moment, tu as essayé, avec ce que vous avez filmé en Tunisie dans les manifs, quelque chose ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez choisi ces endroits, ces paysages, pour la lumière, pour le vent ? Mais est-ce que par rapport aux images de Tunis, pourquoi ces endroits-là ? C'est juste le vent, la lumière, ou est-ce que les images de Tunis, tu ne pouvais pas aussi trouver ta façon de les appréhender et de les montrer avec cette idée, avec ce dispositif-là, mais, ou un autre, mais finalement, tu partais de ces manifs à Tunis. Mmh. Bon, je ne sais pas si tu as compris ma question.
Tu as essayé de faire le battement avec les manifs aussi ?
Écoute, non. Est-ce qu'il y a un regret ? Il y aura d'autres manifs. Hein. non, mais...
Je sais que bon, tu n'étais pas trop pour l'artifice, mais même au montage, est-ce que tu as eu...
Non, il y a un petit montage, là. Hein.
Non, je voulais dire par rapport aux images de Tunis. Est-ce que tu as eu envie de travailler sur ces images ? Ou finalement, c'était complètement autre chose qui t'intéressait ?
Je n'ai pas compris la question.
Tu l'as choisi, ou tu l'as choisi, c'est aussi une façon de choisir pour la lumière, pour les vents.
En fait, alors j'ai compris ta question.
Ouais.
Non, en fait, oui, c'était intuitif. Intuitif, c'est-à-dire une sorte d'errance, on a beaucoup, en fonction de la vie, du temps, intuitif. Parce que à ce moment-là, et je suis encore dans ce moment-là, c'est que je cherche, quoi. Je ne sais pas. Donc... là, on passe, tiens, cette cabane est incroyable, j'ai envie de la filmer, simple, et puis quelque chose arrive. Ce paysage presque désertique, je dis, tiens, pourquoi je vais tester déjà avec le paysage le plus épuré. Mais c'est pas plus que ça, en fait, hein, c'est vraiment intuitif. Voilà, il me semble que c'est ça. Hein.
Donc, en fait, finalement, les manifs
ouais.
t'ont juste donné envie de faire autre chose. En gros.
Mais j'ai tout fait en même temps. En fait, j'ai tout fait en même temps. Quand il y avait une manif, j'allais à une manif. Quand on avait le temps, quand il y avait une tempête, j'allais vers la tempête. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment déployer les pistes et ne surtout pas se faire enfermer. Et voir se contredire d'une piste à une autre, quoi. C'est-à-dire à la fois aller dans par rapport à la manif, c'est-à-dire c'est vraiment questionner la densité, plutôt. Comment annihiler ou comment être entré en tension avec quelque chose de très 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 proche, être au milieu d'une foule, vraiment. Et au contraire, comment questionner l'horizon. Donc là, et là, ce qui m'intéressait davantage, c'est comment, comme dans Dénouement, cette vidéo-là, comment travailler la tension entre contact et distance. Comment en filmer un horizon, donc le point là, il est vraiment lancé à l'horizon, mais en même temps, on a cette chose qui est au contact. Donc l'écran, la pellicule, vraiment la question de la pellicule et de l'image, enfin, et de la projection, enfin, toutes ces questions très très simples. C'était ça qui me guidait là. Hein. Donc, le choix du paysage ou de la lumière, ça c'est intuitif, mais les pistes s'ouvrent comme ça. Donc, en fait, c'est la manif et ça, ça se contredit presque à la, d'une certaine façon, vu que c'est pas la même chose qu'on sculpte ou qu'on cherche. Oui.
Il me semble, me vient quand tu détailles ça, une idée aussi, c'est que je pense que la grande densité de la manifestation, ça emmène Ismaël sur, comme des pièces qu'il a pu faire par ailleurs, sur la question du flux. Alors que paradoxalement, quand ça se vide, on rentre dans une dramaturgie. Comme si quelque chose allait vraiment du côté phénomène, un écoulement. Tandis que là, effectivement, lorsqu'il y a des personnages seuls qui entrent, tout participe à une espèce d'histoire. C'est-à-dire que c'est, et moi, ce qui me semble très passionnant dans le travail d'Ismaël d'un point de vue cinéma, justement, et pas le cinéma que j'ai cité tout à l'heure, mais peut-être un autre cinéma, c'est que c'est un espèce de micro-cinéma. C'est-à-dire qu'après, une fois que ça s'est installé, un type qui traverse et, ou le gamin qui s'adosse à un mur, ça devient un film. C'est-à-dire, c'est un film, mais c'est un film comme quand un type s'adosse dans Pasolini, c'est un film parce qu'il y a une sensibilité au fait que quelqu'un s'adosse et que ça veut dire quelque chose et qu'il y a le corps entier est complètement présent à ce qui se passe. Et c'est vrai que je me rends compte que la manif, par son flux, elle a tellement d'infos qu'elle ne peut plus être pensée que comme une espèce de liquide, tu vois, mais on n'arrive pas à retrouver les motifs singuliers de ces micro-histoires qui vont d'un coup être, je crois, fabriquer en fait ce que racontent ces formes-là, c'est-à-dire vraiment des tout petits films, mais vraiment tu vois des films du peu, mais qui sont assez intenses. La manif jouerait sur un autre régime, j'ai l'impression.
Oui, c'est deux choses très très différentes. De la même façon qu'on n'a pas parlé d'une vidéo qui se projetait sur un écran noir, qui elle est une sorte de déclinaison de ces expérimentations, qui est là un cache obscur, mais projeté sur un fond noir, et qui... Là, il y a un travail de trompe-l'œil, presque. Hein, c'est-à-dire, la question de la projection, projeter un cache de la même couleur que le mur de projection, du coup, on a l'impression que c'est le mur qui s'ouvre. Et là, c'est plutôt la question de la chambre noire, c'est-à-dire de la lumière qui pénètre légèrement de la fenêtre. Enfin, et déjà, on est sur autre chose. Là, ce serait plutôt peut-être une installation avec plusieurs lumières ciselées comme ça qui émergeraient très subtilement. Enfin, je sais pas, mais bref, je reviens à ça, c'est-à-dire plusieurs pistes qui parfois se contredisent, certaines qui sont presque dans la contemplation, d'autres qui sont dans leur rapport à l'événement, à l'attention. D'autres qui sont plutôt, comme tu l'as dit, lors de la narration, mais dans le liminal, quoi. C'est-à-dire vraiment au départ. Le départ, une amorce, mais l'amorce d'une amorce d'une narration. Et évidemment, la question de l'ellipse ici, que joue le vent, on voit le lien. C'est-à-dire la narration avec l'arrivée des personnages, mais évidemment... la rupture dans le mouvement, la continuité. Par exemple, cette chose-là, je l'ai beaucoup pensé par rapport à des choses comme Marée, par exemple. C'est loin d'être ça, hein, je veux dire. Mais c'est-à-dire comment la palpitation ou la continuité dans la discontinuité peut, par exemple, révéler ou hacher un mouvement. C'est cette vidéo-là qui a... Ou filmer la manif aussi. J'ai beaucoup pensé à ce genre de choses. Filmer des gens qui marche, donc un flux, mais en même temps trouver le moyen de trouver des vides, ou de sculpter le vide dans ce mouvement, dans ces corps qui passent.
Je me demandais si quand vous parliez de l'échec à Montpellier avec les gens...
C'est pas l'échec.
J'ai des difficultés à rentrer à Montpellier parce que les gens, justement, il y a une sorte d'évitement de la ligne tracée par l'objectif. Mm-hmm. Avait été en fait aurait pu être considéré comme lié à un échec parce que elle venait s'introduire dans le film et c'était inattendu, etc. Et comme ce qui m'a frappé dans toutes les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, c'était un peu cette manière de vouloir rendre tangible ce qui n'est pas forcément tangible, justement, que ce soit le vent ou le pouls d'une personne, etc. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on pourrait rendre tangible ce fil invisible tracé par la caméra et rendre tangible l'évitement, quoi, enfin, des gens qui justement
oh là là. Je sais pas, j'ai besoin d'écouter là, c'est tout. J'aime beaucoup. Ouais. Mais petite anecdote, hein. Mais justement hier, j'ai fait une expérience avec des enfants où je leur disais mettez-vous là-bas. J'ai pris un appareil photo. J'ai dit voilà, vous faites semblant que je vous prends en photo et vous allez voir, tout le monde va s'arrêter. Et donc on a créé un véritable embouteillage, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde attendait sagement, encore une fois, qu'on finisse. Et moi, je dis, non, mais baisse-toi, là. Non, à droite. Et les gens sont patients. Hein. Et il n'y en a qu'un seul, impoli, qui a brisé le fil. Et c'était dingue, parce que donc, j'avais posé ce postulat. Je lui dis, vous allez voir, et ça a marché. Ouais.
En fait, le monsieur de l'oxyde de l'encre, en fait, si tu l'entends, donc c'est le rapport au son.
Oui, et après, à la parole. Façon,
je ne sais pas si on entend.
Non.
C'était plutôt la mienne où on y a un sous-titre. Enfin, quelque chose qui aurait pu être. Enfin, qui n'était pas prévu dans la manière de concevoir le projet et dans l'idée initiale. Enfin, on venait finalement l'enrichir en le perturbant, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'il y a la question de l'accueil, quoi. C'est-à-dire comment tenir ta chose pour qu'elle puisse accueillir parfois, rarement, des choses.
C'est vrai, en montrant ce film, on l'a montré au FID à Marseille, dans un festival documentaire. Alors c'est vrai qu'on est quand même relativement loin encore du documentaire avec orientation, même si moi j'avais posé à Ismaël le postulat qu'on était quand même au début du documentaire. Parce que du coup, c'est effectivement le moment où, en mettant quelque chose de très... ce qui veut faire autre chose... moi, j'avais posé un postulat un peu bizarre du documentaire, parce qu'il y a plein de manières de le décrire, et celui qui m'était venu, c'est effectivement quand quelque chose vient perturber ce qu'on voulait faire, alors c'est du documentaire. Tu vois, donc là, il y avait une espèce de rapport de fabriquer une chose très construite, et puis cette perturbation-là, elle ouvrait une perturbation documentaire. Et c'est vrai que ça a quand même été l'un des piliers des envies des recherches qui ont suivi, quand même, cette espèce de moment où un type vient, entre dans l'expérience, raconte quelque chose et ça crée un espèce de film. Il y avait la volonté quand même de fabriquer quelque chose qui permette en fait de continuer ça, non ?
Oui. Non, c'est vrai que là, il y a la volonté de sortir déjà, de refilmer dehors, parce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc, d'être confronté à des paysages, à des flux. Et ce dispositif, quand même, me repose dans la tangente, me replace au seuil de ça, quoi. C'est-à-dire, on est dans ça, mais en même temps, pas tout à fait. On reste quand même dans la micro-expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que j'arrive à peu près pour l'instant à y trouver mon compte, quoi. Mais, c'est-à-dire, finalement, je filme encore quelques centimètres de blanc, mais ces quelques centimètres de blanc mettent en tension un paysage, par exemple. En tout cas, j'espère. Hein, je sais pas.
Comme ça vient d'être évoqué,
le son, mais. Enfin. Il y a des vidéos que tu fais où il n'y a pas du tout de son, beaucoup je pense, enfin la plupart peut-être, ouais. Mais là du coup c'est assez beau de voir une expo de vidéos silencieuses. Ouais. Je dis pas que ça pourrait être la norme, ou mais ça ramène, bon il y a ce blanc, il y a les murs blancs, il y a de la peinture, je veux dire ça fait pas de bruit, des photos, mais par rapport au champ, au vent, tout ça. C'est une question qui se pose même pas pour toi à un moment donné. Quand tu vas faire ces images ou quand tu les ramènes, cette question du son, je veux dire que c'est quelque chose qui est questionné, qui est éludé, qui ne fait pas partie d'un vocabulaire, qui est une évidence. Enfin, j'en sais rien, en fait.
J'ai toujours du mal avec cette question, en fait. Mais en fait, ce qui me pose un peu problème avec le son, pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que ça en dit trop. Alors que j'essaye quand même de créer, en tout cas d'explorer des images qui... énigmatique, c'est pas le mot. Mais qui mettent du temps à se révéler. C'est-à-dire, il faut qu'on se demande ce que c'est d'abord, et puis quelque chose arrive. Et le son, pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Hein. C'est-à-dire... Le son général est cette couche qui ramène trop directement le réel, en fait. À moins que je trouve une solution de le travailler aussi, quoi. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi. Mais dans Orientation, le son est très important parce que le bonhomme qui arrive, cet hors-champ qui arrive, il vient avec le son. Donc là, ça, là c'était juste parfait, quoi.
Mais c'est là justement qu'il introduit une dimension documentaire.
Oui.
Parce qu'il y a un effet, il y a un effet de réalisme.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Tout en étant un effet de... Où il continue, par chance pour toi, il continue en fait la perspective du projet, parce que ce qu'il raconte, c'est un très bon client, quoi. Donc ça va.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mais je trouve, pourrait aussi... répondre à ce que tu disais aussi, ce qui me semble assez intéressant, c'est que on travaille sur des éléments, et quelqu'un l'a dit, qui nous révèle ce qui se passe à l'endroit, la lumière, le vent, et c'est vrai qu'être la privation de certaines dimensions de ça nous les rend là c'est voir le vent, et le vent c'est pas trop quelque chose qu'on voit en fait, c'est-à-dire que du coup on déplace quelque chose au niveau du sensible en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va le... Ce qui est drôle avec ça, moi, pour les avoir regardés pas mal de fois quand on travaille ensemble, c'est que ça a beau être extrêmement évident, cette histoire de vent, en fait, tu mets du temps à penser au vent. Tu penses à plein d'autres choses, en fait, avant. Et ce qui est quand même... Et je pense que si tu mets le son du vent, bah, tu penses d'abord au vent. Et là, tu penses à plein d'autres choses.
Mais en même temps, ça en fait le même. C'est pour ça que j'y pensais en fait, parce que comme avec les 5D, généralement le son est complètement écrasé.
Non, il m'a fait faire des prises de son quand même. Hein.
Ouais, bon.
Même voilà. Si on n'a pas là.
Peut-être ça.
Et ça pose la question que le plan sonore, pourquoi le plan sonore doit être documentaire? Parce qu'on peut imaginer un plan sonore qui représente d'une certaine manière leur chant, parce que c'est la marginalité de l'image qui fait penser à leur chant. Et donc le plan sonore peut être un hors champ vraiment. De quelque chose qui n'est pas dans le champ, avec une relation complètement, un certain interstice entre ce qui est dans le hors-champ relatif de l'image et ce qui est dans un autre hors-champ, un hors-champ qui, la construction sonore en fait, c'est ça la question. Michel, tu as pensé d'une construction sonore, parce que tu dis qu'effectivement le son c'est quelque chose qui grandit trop, mais la construction sonore, c'est justement la façon de contrôler cet élément-là pour garder le vide ou garder l'autre.
Construction.
Bah, je pense par exemple à Charles Bartas, où le son. En fait, je pensais beaucoup à ça parce que, effectivement, quand on pense le niveau de relation avec le cinéma, il y a déjà beaucoup de choses dans la fiction, dans le cinéma de fiction, qui, d'une certaine manière, ramènent à ce dispositif dans des scènes. Où, je pense qu'il y a des films de Bartas, il y a des films de Garel, où tu as les draps, tu as des choses qui flappent, des Cimino, Heaven's Gate, comme ça au début. C'est qu'au niveau du son, il y a une construction complètement de fiction sonore qui ramène à quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Et donc, il redouble cet élément de ne voir pas. C'est-à-dire que tu dois écouter, tu dois chercher quelque chose dans le son. Ce n'est pas que le son devient l'évidence de ce qu'on ne voit pas, mais plutôt, ça devient un autre niveau d'invisibilité. Donc.
Ouais.
Ça fait du travail.
Non, mais c'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que j'ai pas du tout ce réflexe là, c'est dingue. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas du tout le réflexe de, a priori, de penser le son, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois rien là-dessus, quoi. Il faudrait faire des essais, mais pour l'instant c'est loin de mes préoccupations, quoi. Mais ce que tu dis est vraiment super intéressant. Mais je sais pas, t'en penses quoi, toi?
Pareil.
Ouais, pareil. Et toi, t'en penses quoi, toi ? Toi, t'as pris des prises de son, donc je sais pas.
En fait, moi, je trouve qu'il y a déjà suffisamment à chercher dans l'image qu'on a, par rapport à ce que tu disais, comment le son va recréer peut-être autre chose, une autre couche. Pour moi, il y a déjà assez de choses à chercher là. Et après, c'est vrai que le son, quand on écoute, qu'on regarde les vidéos avec le son, on n'est plus du tout au même endroit, quoi. Par exemple, la manif, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable d'avoir le son de la manif parce que on est dans la manif, quoi. C'est tellement puissant.
Mais ce qui est aussi grave, c'est qu'on pourrait reconstruire un son qui nous emmène dans encore une autre couche et qui déplace, quoi, qui nous fait voir la manif, mais l'attend sur autre chose. Après, moi, j'ai l'impression que l'absence de son dans le vocabulaire d'Ismaïl, ça homogénise, en fait, son travail. C'est-à-dire que ce qui crée aussi un effet d'ensemble dans son travail, c'est aussi cette absence de son, quoi. Je trouve que c'est vrai que nous, on a montré ensemble Dénouement et Film dans la même pièce, et c'est vrai que c'est deux vidéos qui sont différentes, mais qui ont aussi des cousinages formels, ont aussi en rapport le fait de pas avoir de son, et quelque part, ça crée une espèce de familiarité entre elles.
Il y a ça, et puis je pense que j'ai quand même une posture de photographe, quelque part. C'est-à-dire que il y a toujours la tension entre cette image plate qui devient volume et qui devient mouvement aussi. Mais il y a toujours quand même cette tension entre image fixe et image en mouvement. Et je pense que le fait de ne pas avoir de son contribue à ça. Et c'est pour ça que souvent les choses se font lentement. Là, par exemple, plus les caches sont lourdes, plus il vibre lentement, là c'est encore un peu rapide, mais d'ailleurs c'est assez musical, hein, mais bon, enfin il y a quelque chose de sonore là-dedans dans l'image, je pense, mais j'ai l'impression que vraiment le fait de ne pas avoir de son peut-être rejoue ou prolonge le trouble de ce à quoi on a affaire, peut-être, mais ça je sais pas, il faudrait que je réfléchisse beaucoup pour savoir, mais je crois qu'il y a de ça, oui.
Intériorité un petit peu, donc on n'a pas spécialement envie d'entendre du son comme si on était dans notre baignoire, sous l'eau. Enfin, moi, c'est l'effet que le son ne m'a pas manqué. J'ai l'impression d'être dans une intériorité.
Non, c'est vrai que moi je répondais au départ au fait que Ismaïl avait des craintes de que son travail soit pas associé à des questions d'origine géographique parce que ça peut être assez pesant, et moi je disais que je pense que simplement on peut détacher d'une notion strictement biographique un attachement qui est d'une nature un peu différente, quoi, qui est aussi une chose qui ne se prononce pas dans juste de venir de là, mais d'être traversé par ça. Moi, je pense qu'il est quand même traversé par le paysage tunisien et par la ville tunisienne, mais que ça n'a rien à voir avec une question stricto sensu biographique. Tout est traversé par des choses.
La preuve, c'est que ça vient seul, tout seul. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça revient tout le temps. C'est-à-dire, ça revient tout seul, quoi. J'ai beau inventer des dispositifs, des machins. Ça remonte comme un bouchon à la mer, enfin, je sais pas, quelque chose qui. Enfin, ça remonte et ça infuse en surface un peu. Enfin, en surface, pas forcément, mais en tout cas, il y a toujours les indices de cette chose-là qui flotte quelque part. Oui. Oui, ça c'est très important. Alors les nuances du blanc sont très importantes et tu les obtiens les couleurs comme là tu les obtiens quand il y a beaucoup de soleil. Là il y avait des nuages donc les colorations sont plus subtiles, c'est vraiment des variations de gris. Mais ça c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire c'est un des éléments à travailler ici, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'essaie de plus en plus les caches de plus en plus lourds, parce qu'après, il y a des vibrations presque infimes. Et surtout, quand ce type de projections sont faites en très très grand, il y a une vraie palpitation du blanc, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que c'est l'écran de projection, l'écran vide à blanc, hein, qui palpite, et sous ces nuances, les multiples, en fait.
C'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a peut-être pas non plus évoquée, qui est un peu là sous nos yeux, et qu'on c'est le fait qu'il y a des écrans multiples, et que c'est finalement montré plutôt... Bon, ça, c'est une étape de recherche, mais il y a quand même l'idée d'écran multiple. Ce qui me fait revenir à la question aussi du son et de la narration, parce que il y a quelque part aussi une dimension dans cette pièce, notamment un peu bande dessinée, en tout cas séquentielle. C'est-à-dire qu'on a une image composée de plusieurs images, mais ça peut être aussi... Et c'est vrai que si, moi, il y a une des vidéos récentes que tu as faites qui fait le plus penser à l'idée d'un son et une potentialité narrative, c'est celle-ci à cause du fait qu'il y a plusieurs, à cause de la présence de plusieurs cases, en quelque sorte, qui a quelque part qu'un signe narratif. D'abord, c'est un peu comme la notion d'une pellicule, tu vois, c'est la succession des images, et à la fois l'image avance dans sa profondeur, mais avance aussi dans son rythme horizontal, quoi. Elle avance dans deux sens. D'ailleurs, tu avais aussi l'idée qu'on puisse passer avec une ellipse entre les cases, en fait, donc qui est un rapport d'elliptique dans ce sens-là, et dans le sens aussi et qui, pour moi, quelque part, voilà, je me dis, elle a tout d'une espèce de machine narrative, cette pièce-là, beaucoup plus que si tu enlèves en fait les ellipses entre les cases qui composent une seule image, finalement, c'est une seule image qui va avoir un battement par endroit. Quand on les sépare, du coup, moi, il y a quelque chose qui me... Et l'évocation d'un son, comment dire, construit, qui nous emmène ailleurs, moi, je trouve, en tout cas, quand je vois ça, je peux imaginer une fabrication sonore, parce qu'il y a une espèce de récit. Pour le dire aussi, comme a dit Jérémy en faisant référence à la peinture, même si on pourrait être dans un polyptyque, je trouve qu'on est, quand même, moi, plus dans la bande dessinée, donc le début du narratif, le strip, que dans la peinture, où là, on peut être dans la peinture suprématiste un peu. C'est la ligne blanche sur fond noir qui bouge. Mais non, je trouve qu'il y a quelque chose qui est différent qui se passe quand on va avoir ces interstices noirs qui vont aussi nous indiquer, presque sont des signes narratifs et des signes séquentiels. Et que du coup, là, on est dans quelque chose où c'est un site, pour moi, c'est, voilà, c'est un strip, alors, du coup. Mm-hmm. Mais c'est...
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la boucle, elle se construit autour d'un moment où le clapet se baisse, et puis donc il y a un effet de suite. Là, par exemple, bon, ici, l'effet de boucle produit une continuité, une vibration perpétuelle, quoi. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trois écrans n'ont pas la même durée, et que, en fait, il y a une sorte de décalage progressif. C'est-à-dire, une fois le personnage arrive, il ressort dans l'autre écran. Et là, ensuite, quand il va revenir, il ne va plus ressortir.
C'est justement quelque chose qu'on guette, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, quand on voit longtemps la vidéo, on remarque qu'il y a un effet de retard et de décalage jusqu'à ce qu'on arrive à ce que les deux personnages soient dans deux écrans différents, le même personnage dans deux écrans différents, ce qui fait qu'il y a un rapport, voilà, à un bloc de temps un peu déréglé, comme ça, et qui palpite en même temps. Enfin, il y a... Et donc, l'effet de boucle produit ça, parce qu'après, quand le personnage revient et qu'il ressort, il dit « Ah tiens, il y a une boucle !» Oui, voilà. Et puis, il y a des motos qui passent, que l'on ne retrouve plus dans les autres écrans, enfin, ce genre de choses, quoi. Il y a un effet de suture et de rupture aussi. C'est pour ça que quand tu parlais d'effet narratif et de mouvement de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est vrai, ça fonctionne aussi comme ça, quoi. Ça fonctionne dans la surface, la profondeur, et droite à gauche dans le mouvement.
J'aurais deux questions. L'idée de la membrane, oui. Elle était venue à quel moment, en fait ? C'est au moment de la manif ?
La membrane.
Enfin,
le dispositif, l'idée est venue. Non, en fait, l'idée, elle est venue en expérimentant, comme toujours. C'est-à-dire qu'en général, je travaille pas d'une idée. Ça ne vient jamais d'une idée, déjà. C'est-à-dire, c'est pas une idée, tiens, et si je... C'est pas jamais comme ça. J'ai juste manipulé du papier, et puis, bon, observé une ombre qui passait dessus, et puis j'ai filmé ça. Et après, j'ai dit, oui, c'est vrai que le papier, ça se colore. Enfin, c'est simple, mais... Et après, petit à petit, en discutant et tout, il y a eu l'idée de fabriquer un instrument de capture. Donc, Donc de prendre mon 5D et tout et de lui fabriquer une greffe. Donc il y avait tout un travail de bricolage, c'est-à-dire avec du fil de fer, comme Edison racontait, un fil de fer, je découpe un cache, je le mets, et donc il y avait tout un passage de bricolage, quoi. Tout un passage de bricolage et de travail autour de la transformation de l'appareil photo. Et petit à petit, des effets sont sortis, c'est-à-dire le rapport à la lumière, à la palpitation, qui, petit à petit, se raffinent, c'est-à-dire ils deviennent de plus en plus fins, en fait. Et du coup, ça donne lieu à plusieurs expérimentations.
Si c'était je ne sais pas, peut-être que le vent c'est symbolique ou un truc pareil, mais c'est comme si tu filmais peut-être la Tunisie en essayant de cacher de plus en plus la manif. Peut-être que tu te donnes une certaine distance vis-à-vis de ce qui se passe en Tunisie, alors peut-être d'où le cache, j'en sais rien, mais peut-être que c'est le fait que le vent t'a emporté loin de ce qui
c'est rigolo, hein. Non, mais c'est très beau, c'est très très beau cette idée de vent qui emporte loin. Ouais.
Comme je suis tunisien, je ne sais pas si j'ai une vision biaisée ou bien je fais une projection de ce que j'en sais rien, mais je te demande ça, en fait.
Ouais, ouais.
Donc ce cache qui c'est comme si j'en sais rien ici. Ça va de plus en plus lourd, peut-être, les caches, donc tu as une vision de plus en plus obscure, la blanche plutôt, mais obscure de la Tunisie, et donc tu t'éloignes, et c'est peut-être ce que tu veux pas trop voir ce qui se passe, ou tu te dis que peut-être tu as dépassé ça, et que maintenant... j'en sais rien, que c'est peut-être un truc limitant, ou peut-être
Non, c'est très très intéressant ça. C'est une question très intéressante. Hein. C'est une question très intéressante. Parce qu'elle place la chose à un autre niveau et. Alors là.
C'est un peu trop personnel.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, d'habitude. Oh là là. Je ne pars. En fait, j'ai l'impression que c'est pas ce mouvement-là que je vis.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, j'essaie de filmer des choses, d'expérimenter. Et après, c'est vrai qu'après, bon, l'image renvoie d'autres choses. Ça, c'est ça le truc. C'est-à-dire, ça renvoie d'autres choses. Et à toi, ça renvoie ça qui est très fort. C'est-à-dire, c'est vrai que comment ne pas voir ça? Je vois mal comment ne pas voir ça. Alors que moi, c'est dingue parce que j'y pense pas une seconde.
Ça, commencer l'expo comme ça, c'est quand même
quoi?
Bah, que la première réponse soit ça pour aller.
Là, l'idée, effectivement, qui va être l'un des enjeux de l'écriture de l'exposition, c'est de savoir justement quelle relation va s'établir entre les différentes pièces. Au stade où on est là, c'est plutôt une collection, comme a dit Ismaël, d'expériences qui peut-être ne vont pas toutes survivre au même niveau. On a des différences de format, certaines seules, certaines... Mais c'est vrai que déjà, là, en commençant à les mettre en place aujourd'hui, tu peux créer des significations qui peuvent être du côté de ce que vous dites aussi ou pas, ou tu peux... Effectivement, une chose... Moi, j'avais regardé en petite la vidéo de la manif, on avait regardé pas mal de variations. C'était pas les choses les plus convaincantes au niveau visuel, quoi, parce que c'était... Mais du coup, en la créant sur un écran beaucoup plus grand, en mettant le blanc en évidence, ça devient quelque chose de vraiment autre, quoi. Donc là, du coup, effectivement, s'il y a un truc qui peut se passer, qui va être polysémique. Moi, je pose l'hypothèse que le travail d'Ismaël, comme il est sur une, c'est un capteur sensible, ben, il capte des choses que Ismaël veut capter, et puis il capte des choses que Ismaël ne veut pas capter, mais qui entrent dans la, qui font irruption, comme quand un corps fait irruption, comme dans Orientation, lorsque le passant fait irruption à l'expérience. À un moment donné, ce qu'on a envie de voir, c'est les deux. Je pense que Orientation montre bien à la fois la délicatesse du tournage dans un verre d'encre, et puis à la fois ce qu'apporte cette irruption d'un passant. Au même titre que là, effectivement, il va y avoir à la fois un travail très ciselé, précis, délicat sur les caches, et puis l'irruption dans les marges d'une réalité qui rentre sans frapper. Parce que même si tu dis je vais filmer la manif sans la filmer, elle résiste par le bord, quoi. Tu vois, elle est encore là. Et ce qui est d'ailleurs très beau, c'est qu'on voit qu'avec très très peu d'images, tu vois des fragments de drapeau tunisien et tu arrives à reconstituer encore une... comme dans l'orientation, on voyait des fragments de langue, une plaque d'immatriculation, un bout de mot, etc., qui nous emmenait à Tunis, mais par tout petit bout. Là, je trouve que la manif, quand tu regardes assez longtemps, tu finis par commencer à voir les drapeaux se reconstituer par fragments. Donc, il y a aussi ça de...
Ouais, mais pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est vrai que je ne peux pas faire autrement que de filmer... de travers, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire mal, mais en trouvant toujours des points de ricochet, quoi. Donc là, oui, il y a une façon de filmer sans filmer ou de filmer tout en laissant une part de marge ou de blanc. Mais par rapport au sujet ou à la Tunisie, par exemple, je sais pas quoi dire. Oui, oui. Mais c'est clair que moi, par exemple, je pense qu'il y a une forme de distance, oui. Oui. C'est-à-dire que il est évident que depuis le départ, ce qui se joue, c'est aussi ça. Comment filmer toujours cette tension? Comment filmer quelque chose, par exemple, d'affectivement très fort, mais ne pas filmer cet affectif, mais filmer une forme de distance ou d'écart, quoi. Donc ne pas du tout jouer cet affectif-là, mais au contraire, aller au plus près pour créer une distance.
C'est presque une sorte de souvenir, en fait. Quelque chose de cette idée-là, je trouve, par rapport à une image qui est là, qui disparaît, qui réapparaît, elle n'est pas totalement nette, elle n'est pas totalement... C'est comme si c'était quelque chose qui s'effaçait déjà. Enfin, ça me fait penser un peu à ça. C'est pas une image totale, elle n'est pas totalement dessinée, elle n'est pas totalement... Justement, ce qu'on peut percevoir, c'est peut-être juste des... Voilà, on se rappelle qu'il y a des couleurs, des choses comme ça. Ça fait penser un peu à ça.
Ouais, peut-être.
Et puis... Enfin, moi, j'avais une autre question par rapport au cinéma. Enfin, par rapport à l'idée du cinéma, parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Donc là, on voit l'écran, on voit même ce mouvement qui me fait penser à un défilement. Est-ce que l'idée de mise en scène, en fait, de la profondeur t'intéresse? Parce que là, on sent qu'il y a... Il y a quelque chose, enfin, tu n'agis pas sur la profondeur. Mais est-ce que le fait d'agir, ça t'intéresserait ça, de pousser justement le dispositif de tournage à ce point-là?
J'ai pas compris.
Mettre en scène ce qui se passe.
Oui, mettre en scène. Ah oui, ça c'est plus simple. Non, non.
Non du tout.
Oui, en fait, la question s'est posée. Et je pense que non. Déjà, je peux pas. C'est simple, j'en suis incapable. Et puis, je pense que c'est pas du tout le but. Je crois qu'il faut que ça reste quelque chose de plus volant, quoi. De plus volant, de plus. Faut pas que ça. Non, non, je pense pas vraiment. Parce que vraiment, l'idée a trotté dans ma tête à un moment donné. Parce que, évidemment, c'est une possibilité. Hein. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient faire des choses très bien. Mais je pense que. C'est comme la question de la construction du son, quoi. Je crois que je suis pas dans la construction. Je crois juste ça, quoi. C'est pour ça que le mot construction tout à l'heure m'a un peu heurté, parce que je crois que je ne suis pas du tout dans la construction. Je fabrique peut-être des choses, mais il faut les cadrer comme un scientifique qui cadre à peu près les plans d'une expérience, mais après, il faut que ça reste vulnérable. Mais je ne suis pas du tout dans la construction, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas d'idée, par exemple. Je n'ai aucune idée. Ça vient des mains, ça vient de... Là, je ne sais pas encore. C'est en train de venir, là. Mais je n'ai pas d'idée. Je ne construis pas.
Juste par rapport au souvenir, c'est vrai qu'on y pensait, parce qu'il y a quelque chose de lacunaire qui est propre au souvenir, c'est-à-dire que ce sont des bribes
qui apparaissent, qui disparaissent. Et par rapport à la construction aussi, en fait, tu construis des dispositifs ou des protocoles ou qui te permettent de faire advenir du hasard, d'accueillir le hasard.
Oui, un peu de ça, oui. Oui, c'est vrai. Il y a toujours la question d'aller au plus précis dans quelque chose qui...
Mais moi, je pense que c'est pas que du hasard. Moi, je pense qu'en fait, la manif, par exemple, c'est une manière d'essayer, en fait, d'avoir une idée qui ne soit pas une idée à proprement intellectuelle sur le sujet. Pour moi, en fait, quand je vois l'image que fait Ismaïl, c'est une certaine forme de pensée et d'opinion des choses, mais qui ne emprunte pas, en fait, le chemin d'une formulation intellectuelle, c'est-à-dire d'une opinion, d'une position. Mais quand tu dis, t'as pas d'idée, et moi, je pense qu'en fait, ton travail, t'as pas d'idée qui précède le fait de que l'idée va exister en fait dans la complètement intrinsèquement dans la forme. C'est-à-dire que quelque part effectivement, il y a pas d'idée avant, et je pense qu'effectivement ce qui est difficile à décrypter dans l'histoire de la manifestation, c'est que au fond la position d'Ismaïl, elle est dans une expérience, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au préalable. C'est-à-dire, par exemple, je peux penser de tel sujet, le filmer comme ça parce que je suis en empathie, ou au contraire je suis en antipathie, j'ai envie de montrer quelque chose. Là, je pense qu'effectivement, ce que tu en penses, tu ne le sais pas, et le dispositif va être le résultat de ce que tu en penses.
Oui, c'est pour ça que l'idée et le côté un peu, les mots qui vont venir, parce que je travaille beaucoup avec les mots, l'écriture, quoi. La pensée, c'est très important pour moi, mais elle doit absolument venir de façon immanente, quoi. C'est-à-dire émerger de ce qui se fait de l'expérience. Ça, c'est... En fait, je crois que c'est très simple, j'ai déjà dit, mais j'ai commencé à être à peu près à l'aise avec ce que je suis en train de faire le jour où j'ai compris ça, enfin, compris non, mais où j'ai commencé juste à abandonner l'idée de chercher absolument des idées et à juste manipuler et faire en sorte que les choses émergent, et puis après les accueillir ou pas, les laisser... Après, une gestion à faire. Et puis le travail de l'échelle et du rythme. C'est-à-dire savoir que je ne peux pas m'encombrer beaucoup de choses, que je ne peux pas travailler à très grande échelle, sauf peut-être...
Avec une équipe.
Voilà, que je peux pas travailler avec une équipe. Que je peux... Enfin, que je... Voilà, que il faut qu'il y ait une certaine réduction dans l'échelle, même s'il s'agit de capter des paysages, par exemple. Et que le rythme du travail doit être infusé assez lent... mais qui peut avoir des moments d'éclair aussi. Ces trois éléments réunis ont posé les jalons de quelque chose qui est en train de se construire. Il m'a fallu du temps, parce que au départ, je voulais faire des choses énormes. Après, je voulais absolument chercher des idées. L'année dernière, j'ai perdu beaucoup de temps à faire ça. Ce genre de choses, quoi.
Et moi, je pense aussi, dans cette histoire de la manif, la chose qui te met aussi à distance, c'est le fait que l'espace, pour le coup, est saturé d'idées. D'idées au sens là, d'idéologie. Mais à la fois, ça pose une question qui me semble importante pour nous tous aujourd'hui. C'est comment quand même se positionner par rapport à des événements qui ont effectivement une nécessité d'engagement, ou dit autrement, comment s'engager dans les choses sans s'engager dans une chose qui est pré-pensée. Mais essayer de s'engager en pensant. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que l'hypothèse d'Ismaïl, c'est un engagement. Ça peut pas être forcément l'engagement de tous, ou je pense que chacun l'aurait géré différemment. Mais ce n'est pas un engagement prépensé au sens qu'en fait, adhérer... là, tu n'adhères pas à la manifestation, ne serait-ce que parce qu'en fait, tout simplement, il ne va pas dans le même sens que la manifestation, puisqu'il va perpendiculairement. Mais c'est assez important. Parce qu'en fait, la manif, tu peux la filmer avec les gens qui arrivent sur toi, tu peux la filmer en étant dans le sens de la manif, et puis là, on est dans la perpendiculaire. Donc, tu ne vas pas dans le même sens, la manifestation. Et de fait, faire ça, il me semble que c'est quand même souvent le propre de l'art, et c'est que je trouve que c'est ce que l'art renseigne de la société, et ça ne complète pas tout, ça ne peut pas remplacer ce que va renseigner ceux qui vont dans le sens de la manif, ou ceux qui la font, ou ceux qui la pensent. Ça renseigne un autre endroit qui est l'endroit de ceux qui ne sont pas dans l'événement. Et ça a le défaut de ce que ça renseigne. C'est-à-dire qu'en gros, bah, le fait que tu fasses ça ne peut être fait que parce que tu n'es pas engagé dans la chose. Et donc, eh ben, effectivement, on peut te faire le reproche de ne pas être engagé. Oui, plus qu'en fait, si tu étais engagé, tu ne filmerais pas ça de ce sens-là. Et donc, c'est une incomplétude que toute position a, parce que celui qui est en action dans la manif, il ne peut pas être en train de se penser être en action, puisqu'il est en action. Donc il ne peut pas être celui qui... Et on va voir ça dans l'histoire, y compris des luttes. Hein. Quand cette semaine, on a montré des films de Pasolini. Et effectivement, Pasolini va nous montrer des films importants sur certaines luttes, en fait, et combats et pensées en Italie, essentiellement parce que c'est un petit bourgeois qui est dégagé de ces luttes. Parce que lui, il peut les regarder parce qu'il n'y participe pas, en fait. Et quelque part, ça peut paraître paradoxal, mais il arrive à fabriquer un espèce de regard très singulier parce qu'il a le temps et parce qu'il a les moyens de pouvoir les regarder, parce qu'il n'est pas impliqué dans l'urgence. Et ceux qui vont fabriquer des films en étant impliqués dans l'urgence, ils font d'autres films qui sont d'autres films qui vont avec ceux-là. Mais ces films-là n'éliminent pas les films de Pasolini. On a aussi besoin d'avoir des gens qui, en étant dégagés, sont engagés, je sais pas comment dire, mais en étant pas dedans, mais quand même avec. Et c'est cette question de faire corps avec qui me semble être une question...
C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai toujours été fasciné par un mot un peu barbare qui est la désistance. Que je ne comprends pas trop. Hein. Mais la désistance, c'est-à-dire comment la résistance peut passer par une forme de désistement, j'imagine, je ne sais pas. Mais comment une forme de désistance, c'est-à-dire le retrait, le vide, peut aussi supposer ou bien... lancer quelque chose de l'ordre d'une forme de résistance.
La non-participation. Alors.
Je ne sais pas, mais peut-être que ça peut être une possibilité, mais voilà, quoi. Ouais.
Je trouve qu'il y a quand même un engagement d'une certaine manière, comme tu dis. C'est pas non-participation totale.
Non, non pas du tout. C'est être sur la pellicule.
Oui, non, il y a quelque chose qui m'intéressait par justement... rebondir parce que tu disais à un moment qu'on te prenait pour un journaliste de France 24, on voit les photos et tu dis...
Tu ressembles d'ailleurs pas mal.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je me disais, en fait, le travail par exemple d'un journaliste télé, c'est exactement le contraire. Parce qu'en général, tu vas sur une manif, tu sais déjà ce que tu as envie de dire et tu trouves quelqu'un qui va te dire exactement ce que tu as besoin de dire dans ton sujet. Enfin, mais c'est un peu la même chose en fait. Tu mets une manif où ça devient des apparences de. Et par rapport à ça, je sais pas, j'aimerais bien t'entendre si.
Ah bon? Non, mais je crois que tu as dit beaucoup de choses. Je sais pas quoi dire là-dessus. Enfin, non, mais c'est vrai, tu as fait des liens. Ce qui est bien, c'est que tu as fait des liens entre trois expériences qui, c'est vrai, se rejoignent autour de la question du flux. Et puis. Un rapport peut-être à l'actualité, en tout cas au direct, à l'événement qui arrive, et essayer de travailler peut-être une forme de désistance par rapport à ça, je sais pas. Mais... Oui.
Alors, on a souvent parlé de ça, justement, du rythme, de comment filmer une image, quand libérer cette image, quand la montrer. Enfin, aujourd'hui, on voit bien, par exemple, sur ces travaux qui parlent un peu des médias, ouais. T'imposes vraiment un rythme, tu ralentis. Un rythme, enfin, ou en tout cas une habitude. Je veux dire, les médias aujourd'hui ont pris l'habitude de balancer les images d'une manière extrêmement urgente, comme ça. Ce que j'aime bien, justement, c'est ce rapport vraiment imposer un rythme à une image qui va très très vite, qui va beaucoup trop vite.
Donc la ralentir, tu veux dire, par exemple?
Ouais, par exemple, elle est ralentie, ou sinon elle est.
Intérêt,
ouais.
C'est ce que je disais, quand l'artiste n'est pas prêt, il descend avec son châssis, et puis l'événement est en train de passer, et quelque part, cette espèce de... T'as pas le désistement ou d'impréparation. Mais moi, je pense que ce qui me semble aussi intéressant,
Je pense que ça rejoint ce que vous disiez par rapport aux journalistes qui sait. Pour moi, dans le travail d'Ismaël aussi, il y a une certaine forme d'incompétence qui me semble assez importante. Parce qu'en fait, ce qu'on a à partager dans une communauté, c'est essentiellement nos incompétences. Mais comme c'est très dangereux aujourd'hui, tout le monde est compétent en tout. Donc on se doit d'être compétent, sinon on se met... Et en réalité, ce qui va nous lier, c'est plutôt le fait qu'on est tous assez majoritairement, assez massivement incompétents dans la plupart des choses. C'est pas compliqué de dire ça. On sait, voilà, chacun sait faire quelques trucs et globalement est incompétent pour tout le reste. Ça me semble être assez, voilà, sain de dire ça, c'est la vérité. Et quelque part, cette incompétence-là, on ne vient pas un espace de partage. Et ben, je trouve que quand même, dans le travail d'Ismaël, il y a une espèce d'aveu d'incompétence qui, moi, me rend proche de, tu vois, l'incapacité à filmer une manif, c'est quand même quelque chose qui, voilà, moi, je dis, voilà, un type, je pense que c'est important que ça crée une disponibilité. Il y a une possibilité, peut-être d'ailleurs pour d'autres qui savent le faire, mais aussi de pas saturer l'espace de soi-disant compétences, tu vois. C'est pas, on demande l'avis des footballeurs sur le monde, on demande, et on sait bien qu'ils savent pas, je veux dire, c'est pas non plus, ça se voit quand même, quoi, tu vois, je sais pas. Et en plus, on leur reproche de pas savoir, alors le gars, si tu regardes un match de foot, tu ne vois bien, je veux dire que c'est quelque chose qui est, et c'est pas un problème, et il faut être, pour être à l'aise avec ça, en fait. Et là, je trouve qu'il y a, voilà, il y a des espaces d'incompétence qui me semblent être, qui touchent à ton, peut-être, cette absence de, ce désistement ou cette dédistance. Je pense que ça rejoint un peu à ça.
Pour aller plus loin, mais je pense vraiment que c'est vrai que, par exemple, mon manque de virtuosité, je veux dire technique, que j'assume, en fait, quatrième point très important, ça a été d'assumer mon manque de virtuosité, c'est-à-dire le fait de ne pas trop, techniquement, être pas très, très, pour plusieurs raisons, peut-être parce que j'ai pas appris la vidéo déjà, c'est-à-dire que j'ai jamais appris ça, donc... Donc du coup, ça donne une liberté incroyable à partir du moment où on simplifie beaucoup. Ça m'a obligé à déjà éliminer le son. Non, mais je veux dire à simplifier et du coup à questionner le cinéma, par exemple, parce que je ne sais pas en faire, mais en allant aux choses les plus simples. Et c'est vrai que donc cette question d'incompétence, moi je me retrouve beaucoup là-dedans en fait. Et c'est quelque chose qui me travaille en ce moment d'ailleurs.
Et d'ailleurs, tu vois que ce qui est important, c'est que pour rajouter que ce soit ça, en gros, l'incompétent, et c'est important, hein, l'incompétent est souvent appelé amateur. Donc en fait, celui qui aime est quelqu'un plutôt d'incompétent. Et ça, moi, je trouve que c'est important quand même, parce que tu vois, celui qui est qualifié de celui qui aime, donc l'amateur est donc l'incompétent. Non, mais c'est important, parce que ça veut dire que tu vois, et il faut revendiquer le statut d'amateur. Tu dis, voilà, moi, j'aime bien, ce qui, effectivement, sous-entend une certaine forme d'incompétence, tu vois, et ça, c'est... Mais ça, je trouve que c'est important, parce que du coup, on va trouver dans un cinéma amateur, donc de celui qui aime faire, cette espèce de qualité de l'incompétence, quoi. Du pas totalement fait exprès, du pas tout à fait à dessein, et effectivement de globalement l'absence d'idées, qui évidemment libère des possibilités poétiques énormes, quoi, tu vois.
Et puis plus que ça, c'est-à-dire dès que tu as un tout petit peu, tu vas à fond, parce que de toute façon tu peux pas en avoir plus, donc bon, ben cette histoire de clapper, bon ben non, mais je veux dire, oui, c'est-à-dire ça force à ne pas tomber dans la dispersion. En tout cas, ça aide à ne pas tomber dans une certaine forme de dispersion, je pense. Je pense, hein.
Je sais pas. Pardon, mais en même temps, c'est très technique, c'est très maîtrisé et c'est très scientifique. Donc il y a un paradoxe, oui, qui est vachement intéressant, quand même. C'est que incompétent, j'ai compris et j'apprécie beaucoup. Mais en même temps, il y a un truc qui est hyper maîtrisé en même temps.
Oui, mais parce qu'il faut travailler beaucoup pour arriver à une précision. C'est-à-dire que, évidemment, l'incompétence, ça ne veut pas dire tout le travail est une question de précision, quoi. C'est-à-dire travailler, répéter, répéter, jusqu'à arriver à un moment où tu te dis, bon, bah là, je crois que ça va. Donc, ça.
C'est une extrême précision.
Comment ?
Une extrême précision dans le.
T'as pas compris
l'expression qu'on avait changée, d'une extrême précision.
Non,
dans le...
précis mais inexact.
Précis mais inexact, voilà, ouais. C'est ça.
Ça, par exemple, on avait échangé une fois, Marcel Duchamp dit ça. Mm. Précis mais inexact, je crois que c'est ça. C'est-à-dire, c'est inexact, on n'est pas de l'ordre du vrai, du faux, du mesurable presque, mais par contre, c'est précis. Oui, c'est aigu, quoi. C'est aigu, on touche au plus près, mais c'est inexact. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui flotte, quelque chose qui vibre.
J'avais des questions plutôt sur le fait que quand tu dis que tu n'as pas appris la vidéo, est-ce que tu as déjà filmé en pellicule ?
Non.
Parce que je crois que quelqu'un l'a dit dans la conversation. On a le sentiment d'un passage d'un photogramme à l'autre, surtout quand tu les disposes comme c'est là, les cinq. Et en plus, avec le battement. Donc, c'est très curieux parce que quand tu dis aussi que le son ne t'intéresse pas, grosso modo, ça fait penser à un cinéma primitif où tu as cette espèce de passage d'un photogramme à l'autre et ce battement. Et toi, tu le fais en vidéo. Donc, tu as comme une espèce de retournement du gant entre la vidéo, le cinéma primitif et finalement le pas voir. Qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit rien. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as.
C'est bien le on ne voit rien, parce que c'est assez. C'est important. Ce n'est pas on ne voit rien, mais c'est on ne voit rien.
Voilà. Oui. Non, mais c'est très intéressant ce renversement et ce basculement-là entre travailler justement avec de la HD, là, par exemple, plus ou moins, mais convoquer à travers ce moyen-là quelque chose d'autre, quoi, quelque chose de plus. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi rentrer dans le bricolage, alors que je suis un piètre bricoleur. Et essayer de greffer cette chose complètement bancale là, sur cet appareil qui fait peur un peu. Et oui, il y a ça. Et après, pour ne pas voir grand-chose, oui, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a ça. En tout cas, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, oui, qu'il y avait un frottement possible entre la question du numérique, en tout cas de l'image lisse. L'image lisse. Sans aspérité, entre guillemets. C'est pour ça que j'utilise un 5D. Je n'utilise pas un 5D parce que justement, c'est devenu l'image de référence, presque du truc extrêmement lisse, quoi. Et peut-être qu'il y a une forme, une façon de trouver des choses un tout petit peu, une certaine ingéniosité dans le fait d'amener un peu d'inexactitude et de tremblement primitif, quoi. Mais avec des choses très simples. Trembler de façon élémentaire, cette image lisse, peut-être. En fait, image qui ne fait pas cinéma, quoi. C'est-à-dire où il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de palpitation. Ça. Il me semble, non ? Je ne sais pas. Quelque chose comme ça, en tout cas. Pourquoi quatre pistes ? Bon, déjà, la façon de projeter est déjà une recherche en soi. Hein. Par exemple, aujourd'hui, bon, on a travaillé là-dessus, on a commencé à trouver des solutions. Bon, c'est pas encore ça, mais pourquoi ce qui les lie, sont donc c'est une expérience commune, mais qui après, comme par capillarité, ça décline, quoi. Ça s'ouvre comme un origami un peu. Et donc, on a vu qu'il y avait des expériences qui s'opposent, l'une qui était beaucoup plus condensée, enfin dans la saturation, d'autres plutôt dans les purs. Ce qui les lie, c'est vraiment cette histoire de recherche, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment à un moment de recherche, donc surtout ne pas fermer.
Parce que l'enjeu, et on disait aussi le risque au départ, c'est qu'il y a des chances que des choses disparaissent en fait du travail vers le travail final. Là, on a construit aussi des moments dans lesquels on voit encore en coprésence des choses qui sont parfois après, il y a un choix qui se fait, comme quand on tourne et on va faire des scènes et certaines vont disparaître finalement au montage. Là, il y a probablement des hypothèses qui risquent de disparaître. Donc là, elles sont toutes en coprésence, mais elles ne sont pas toutes... il y a encore des choses à régler, quoi.
Ah oui, oui.
On donne le mot de la fin à Alison.
Moi ?
Ah oui, quand même, écoute.
Mais pourquoi ?
Le mot de
la fin, vas-y. Non, mais je ne peux pas dire le truc intelligent après tout ce qui a été dit.
Merci.
Merci,
merci. D'accord,
non, c'est pas bien. Non. Ah. Tu passes tes passes pour un type...
Merde.
Je voulais finir par quelque chose d'un peu galant. Venir à Montpellier, elle a participé
vraiment. En fait, il nous a rendu incompétents quand même avec Clément, parce que Clément et moi qui l'avons accompagné, donc les opérateurs, on est quand même cinéastes, entre autres. Et il nous a rendu incompétents sur le tournage grâce à tout son attirail, à tout son dispositif incontrôlable et à tout ce qui est lié à ce dispositif, quoi, et qui ne peut pas être, qui peut pas être contrôlé, quoi.
Donc il y a eu un vrai partage d'incompétences.
Voilà, on a été tous très incompétents, c'était génial.
Merci Ismaël, merci à vous. On peut continuer au bar si vous voulez.